Une semaine d'actualité, Amélie Beaucourt.
Bonjour et bienvenue pour une nouvelle semaine d'exploration de l'actualité internationale à travers les reportages de la rédaction de RFI. Cette semaine, notre tour du monde de l'information nous emmènera au Mali où une cinquantaine de villageois ont été tués par des groupes rebelles. Nous nous rendrons aussi à quelques kilomètres au nord, en Algérie, où la Kabylie est en proie à de violents incendies depuis le début de la semaine. Des incendies qui font rage également dans d'autres régions du globe, des phénomènes qui illustrent tristement les prédictions que les scientifiques du GIEC, le groupe d'experts sur l'évolution du climat, ont dévoilé lundi. Des prédictions sombres, à l'instar de ce qui est malheureusement au sommaire de cette émission ce samedi 14 août. Alors pour remettre un petit peu de couleur à cette planète qui voit noir, notre invitée du jour va poser quelques coups de pinceau, quelques aplats de couleurs vives. Elle n'est pas peintre, mais rédactrice en chef de la Revue Dessinée, ce trimestriel qui depuis 7 ans marie le journalisme et la bande dessinée. Une façon singulière de s'informer, toujours dans la rigueur, mais avec un peu plus de poésie et d'imagination. Bonjour Amélie Mouget.
Bonjour.
Bienvenue à vous dans une semaine d'actualité. Une émission à réécouter en podcast sur le site de RFI et sur vos plateformes de téléchargement préférées. Commençons notre voyage en Afghanistan où les talibans progressent à un rythme effréné et effrayant. Plus de la moitié du territoire est désormais sous leur contrôle. Entre les exactions des insurgés sur le terrain et les raids aériens de l'armée afghane, les civils se retrouvent pris au piège et l'aide humanitaire peine à leur porter secours. L'UNICEF tirait notamment la sonnette d'alarme en début de semaine et appelait les belligérants à respecter le droit à la protection des enfants. Sonia Ghezali, notre correspondante sur place, a joint par téléphone Mustapha Ben Messaoud. Il est le chef des opérations et des urgences sur le terrain pour l'UNICEF en Afghanistan.
La tournure que les combats ont pris ces dernières semaines en Afghanistan touche de façon tragique les enfants, s'alarme l'UNICEF. Le nombre d'enfants tués, qui a déjà augmenté depuis l'offensive lancée par les talibans en mai dernier, ne cesse de s'accroître depuis deux semaines, explique Mustapha Ben Messaoud, chef des opérations sur le terrain et des urgences pour l'UNICEF en Afghanistan.
Les combats, c'est des combats de ville. Donc, c'est les combats qui ont lieu dans les rues, dans les maisons des habitants. Donc, les enfants sont sur la ligne de front et ils ont nulle part où aller. Ils tombent à cause des combats au sol, mais aussi à cause des canons et des avions.
L'UNICEF souligne la difficulté pour les civils de fuir les zones de combat, mais aussi celle des humanitaires à avoir accès à ce prise au piège dans les villes assiégées.
Même pour fuir les combats, ça devient extrêmement difficile parce que c'est souvent des zones où les assaillants se font face et les civils sont au milieu. Et nous, à cause du conflit, on n'est pas capable aujourd'hui de venir sur place et pouvoir sauver des vies. Et tout le temps qu'on perd, malheureusement, c'est les enfants qui vont souffrir de la malnutrition, c'est les enfants qui vont être blessés, qui ne vont pas avoir les soins nécessaires et qui vont mourir.
Les combats s'intensifient à travers le pays et gagnent chaque jour de nouvelles capitales provinciales. Sonia Ghezali, Kaboul, RFI.
Pour les milliers de familles qui parviennent à fuir les violences qui ont éclaté dans leur village, une question demeure, c'est celle de la destination. Environ 2000 d'entre elles ont trouvé refuge dans un parc dans le centre de Kaboul, la capitale afghane, où s'est également rendue notre correspondante Sonia Ghezali.
C'est au milieu des cris et des bousculades que des bénévoles distribuent des portions de riz emballées dans des boîtes en polystyrène. Les familles ici n'ont plus rien. Elles ont fui les combats qui font rage à Kunduz.
Les talibans ont capturé tous les hommes de ma famille. J'ai fui avec mes belles-filles et mes petits-enfants.
Cette femme n'a plus de nouvelles de son mari et de ses frères, tous policiers.
On est là-bas, sous un arbre. On n'a rien à mettre sur le sol pour s'asseoir. Je n'ai rien à manger. Je viens de récupérer deux portions de riz. Mais j'ai faim, j'ai soif.
Près de 2000 personnes ont trouvé refuge dans ce parc du centre de Kaboul. Ils dorment sur des nattes en plastique. Deux cabines sanitaires ont été installées pour les femmes, mais l'une d'elles est déjà hors d'usage. Les mines sont défaites. Agar, un homme, nous raconte.
Les policiers sont tellement faibles. Ils ont fui devant les talibans. Il y a des bombardements, mais ils visent n'importe comment. Beaucoup de personnes ont été tuées. Plusieurs magasins ont pris feu. Il y a tellement de personnes qui ont fui.
Chaque jour, de nouvelles familles arrivent ici. Des hommes vont et viennent. Azra, qui a aussi fui Kunduz, est traumatisée.
Depuis trois jours, j'ai très peur que quelque chose se passe ici. Il y a beaucoup de monde, il y a eu des feux d'artifice dans une rue plus loin. On était tous terrifiés.
Elle scrute chaque visage autour d'elle et dit craindre qu'un kamikaze ne se fasse exploser au milieu des déplacés. Sonia Ghezali, Kaboul, RFI.
Et l'évolution de la situation en Afghanistan est à suivre évidemment dans les journaux de RFI. Plusieurs pays, dont la France, ont d'ailleurs annoncé cette semaine suspendre les expulsions des migrants vers l'Afghanistan, alors que l'Allemagne et les Pays-Bas avaient pourtant demandé initialement à la Commission européenne de ne pas suspendre ces expulsions, au motif que cela encouragerait davantage de réfugiés à venir en Europe. Ils ont finalement fait machine arrière. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision, Amélie Mouget ?
On ne peut que se réjouir qu'on n'expulse pas des personnes vers des pays où la situation est absolument critique. Mais ça interroge néanmoins. Enfin, en tout cas, moi, ça m'interroge. Et puis, la question du choix d'interdire ou d'autoriser, dans quelles circonstances et à quel point il faut être au cœur de l'actualité brûlante pour avoir le droit de ne pas être expulsé. Ça résonne avec un article qu'on avait réalisé un peu sur le temps long dans la revue Dessinée sur la Cour nationale du droit d'asile et l'examen des demandes d'asile par cette cour. Et on voyait le caractère un peu arbitraire et la grande loterie que ça pouvait être. Et c'est ainsi que se décident des vies. Cette décision paraît tout à fait légitime, mais elle soulève la question de toutes ces autres personnes qui viennent d'autres pays dont la situation n'est pas forcément plus florissante.
Ces sujets brûlants dont vous parlez justement, c'est une chose qui est délicate à traiter en bande dessinée, en particulier dans la revue, puisque, pour utiliser le jargon journalistique, vous traitez de l'actu tiède ou froide, tout simplement pour des raisons techniques, disons. Vous pourriez nous expliquer ?
La bande dessinée, c'est un travail de longue haleine. Le temps de découper, le temps de crayonner, le temps de mettre en couleur, de dessiner les bulles, d'écrire à la main parfois la typographie, on serait forcément en décalage avec l'actualité brûlante. Donc la bande dessinée nous impose la lenteur. Et cette lenteur, nous, on l'apprécie plutôt. C'est une contrainte qui devient une force parce que ça nous permet justement de prendre du recul sur les événements, de les mettre en perspective, de les contextualiser. Et on fait des sujets lents, mais aussi des sujets longs et en profondeur. C'est des bandes dessinées d'une trentaine de pages à chaque fois. Et ça nous permet de mettre en résonance des faits d'actualité en ajoutant et de la complexité et la sensibilité du dessin.
Alors le numéro 32 de la revue Dessinée, le dernier qui est sorti et que vous avez justement devant les yeux, c'est celui de l'été 2021. Il fait justement 226 pages. Alors ça paraît beaucoup pour une revue papier dit comme ça, et c'est vrai qu'on parle de beaucoup de choses, mais c'est surtout que vous laissez donc de l'espace à vos sujets et vous avez choisi donc de parler moins, mais mieux.
On traite finalement de très peu de sujets. On a 5 ou 6 grandes entrées, grandes thématiques dans la revue. Alors ça peut être des sujets qui parlent de politique, qui parlent d'affaires internationales, qui d'écologie, d'économie. Mais on va leur laisser de la place. Parfois, on va avoir des pleines pages silencieuses où seulement le dessin s'exprime. Et donc, on décide à la fois de creuser en profondeur les sujets, à la manière d'un magazine, et en même temps de donner cette dimension, de laisser de l'espace pour cette dimension artistique qui est celle de la bande dessinée.
Sept jours en Afrique. L'actualité de cette semaine, c'est aussi ces attaques au Mali, dimanche, dans 4 villages du cercle d'Assongo, dans le nord-est du pays. 51 civils ont perdu la vie, principalement des femmes et des enfants. Une attaque qui n'a pas été revendiquée sur le coup, même si les soupçons se sont rapidement portés sur la branche sahélienne du groupe État islamique. Notre journaliste Kaourou Magassa a contacté les familles de victimes à Bamako.
Le visage cerné, un ressortissant des villages attaqués ce dimanche, n'a pas fermé l'œil depuis 24 heures. Malgré l'arrivée des secours, il craint toujours pour la sécurité de ses proches.
Nous, on n'a pas pu communiquer avec eux. Évidemment, c'est l'inquiétude. Les gens, en pareille situation, ont toujours peur.
Situé en plein cœur de la zone des trois frontières, Mali, Niger, Burkina Faso, les environs sont régulièrement le théâtre de combats entre les groupes terroristes et les armées conventionnelles. Prises en étau, les populations sont les principales victimes des exactions.
Ce qui nous a surpris, c'est l'envergure de l'attaque. Mais en réalité, la zone était déjà exposée. Ça fait plusieurs années déjà, il n'y a pas d'État. Et assez souvent, il y a des incursions. Donc, ce qui s'est passé hier, c'est la preuve, la démonstration qu'effectivement, c'est No Man's Land occupé justement par les groupes armés terroristes et qui font ce qu'ils veulent en réalité.
Outre la sécurisation des localités, la prise en charge des rescapés préoccupe les associations communautaires.
Des braves adultes sont partis. Des familles vont tomber dans les difficultés. Ils ont besoin d'assistance psychosociale, ils ont besoin d'assistance alimentaire, ils ont besoin d'assistance sanitaire, ils ont besoin d'être tranquillisés.
En cette période d'hivernage traditionnellement dévolue à l'agriculture, l'aggravation de la crise humanitaire pourrait augmenter le nombre de victimes collatérales de ces attaques. Kaoru Magasa, Bamako, RFI.
On part également en Côte d'Ivoire où l'ancien président Laurent Gbagbo, revenu de 10 ans d'exil à La Haye, où il avait finalement été acquitté par la Cour pénale internationale, organisait lundi après-midi à Abidjan un comité central du FPI, le Front populaire ivoirien, un parti qu'il a fondé en 1982, mais dont il n'est plus président aux yeux de la justice ivoirienne en tout cas. C'est son ancien premier ministre Pascal Affine Nguessan, qui est cofondateur lui aussi, qui en a le contrôle. Et plutôt que de prolonger le bras de fer, Laurent Gbagbo a annoncé, à l'issue du comité, créer son propre parti politique. On l'écoute.
Camarades, au sujet de notre existence, nous sommes le Front populaire ivoirien. Sur le chemin de la lutte, on rencontre souvent quelques écueils. Tu marches, et tu vois une pierre, tu ne te bats pas contre la pierre, tu la contournes ou bien tu sautes. Sur notre chemin, nous avons rencontré Afi, Afi Nguessan. Aujourd'hui, Afi s'agrippe au poste de président du FPI. Donc, aujourd'hui, je suis revenu de prison et d'exil. Il nous faut avancer. Donc, je propose au comité central la solution suivante. Laissons Afi avec l'enveloppe qu'il détient et nous, nous allons prendre la décision dès aujourd'hui de créer notre propre parti avec le même contenu.
Laurent Gbagbo au micro de Jean-Luc Aplogan, un parti qui devrait voir le jour fin octobre. En Éthiopie, les autorités ont à nouveau appelé la population à rejoindre l'armée fédérale ou les forces régionales face à l'avancée des rebelles du Tigré. Un conflit qui dure depuis le mois de novembre 2020 et qui a déjà fait 140 000 déplacés, en particulier au Soudan voisin. Dans ces camps de réfugiés, les civils et notamment les femmes racontent l'horreur des exactions commises au Tigré, à tel point qu'Amnesty International a alerté mercredi dans un nouveau rapport sur des centaines de viols qu'auraient subis des femmes et des filles tigréennes, commis selon l'ONG par l'armée fédérale éthiopienne, mais aussi par les forces érythréennes venues prêter main forte, ainsi que des milices Amara, une enquête à laquelle a participé Donatella Rovera d'Amnesty International.
Les violences sexuelles sont très souvent accompagnées par d'autres formes de torture. On a mis dans leurs organes sexuels des morceaux de métal, de plastique. Les violeurs ont fait beaucoup d'efforts pour faire en sorte qu'il y ait des conséquences à long terme. Une grande partie des femmes et des filles qui ont été violées ont été victimes de viols collectifs. Nous n'avons pas d'informations précises sur est-ce qu'ils ont reçu des ordres ou pas, mais le fait que toutes les forces agissant dans cette région l'ont fait et dès le début et ont continué à le faire pendant des mois nous montre que tout au moins ils savaient qu'ils pouvaient le faire en toute impunité. Ils n'avaient absolument pas peur des conséquences. Ce ne sont pas des faits ou des crimes isolés, individuels.
Des propos recueillis par notre journaliste Laure Broulard, des propos très durs, on l'a entendu. Amélie Mouget, qu'est-ce qui vous vient en premier à l'esprit quand vous entendez des atrocités, on peut le dire, des atrocités pareilles?
Ouais, c'est glaçant comme témoignage, en tout cas comme récit de ce qui se passe sur place. C'est toujours édifiant de voir quand la folie des hommes passe par le corps des femmes et le viol, c'est pas nouveau et peut être utilisé pour porter atteinte à la dignité des femmes, mais aussi de tout l'entourage et la manière dont ça casse les liens, dont ça déstructure. Même si là, dans le témoignage qu'on vient d'écouter, l'intentionnalité et l'organisation, enfin le caractère politique de l'usage du viol comme arme de guerre n'a pas l'air complètement déterminé, on peut quand même soupçonner, et ça a été vu par le passé, que tout ça n'est pas un sous-produit de la guerre, mais au contraire un de ses instruments, et c'est complètement glaçant. Ouais.
RFI. Une semaine d'actualité avec Amélie Mouget, rédactrice en chef de la revue Dessinée, avec nous cette semaine pour explorer les événements de ces 7 derniers jours. On continue notre voyage en Afrique du Sud, où le géant des GAFAM, Amazon, s'apprête à construire son siège africain au Cap. Bureaux, magasins, logements et salles de sport, un village dans la ville en quelque sorte. 19 000 emplois indirects pourraient être créés, donc la mairie jubile. Sauf que le terrain choisi pour l'implantation est contesté par une partie de la population puisqu'il s'agit d'une zone naturelle et d'un site mémoriel, héritage des premiers peuples. Reportage de Romain Chanson.
Depuis la route, Edwin Anglès observe les aménagements en cours sur le terrain privé du River Club. Il fait partie d'une association de quartier qui se bat contre un projet immobilier de 15 hectares, projet sur lequel Amazon doit construire son futur siège africain. Il dénonce la destruction d'une zone humide importante pour l'environnement.
C'est presque un mini-village qu'ils vont construire ici avec les bâtiments d'habitation qui vont jusqu'à 10 étages. Et donc, cette partie verte entre deux rivières, ils vont les remplir avec béton pour pouvoir construire le quartier général d'Amazon et d'autres sociétés.
Les associations opposées au projet soulignent aussi l'importance historique du site, puisque le terrain fut le théâtre de guerre entre les premiers peuples et les colons. Pour Torik Jenkins, l'un des représentants des descendants des Khoisan, ce projet immobilier est un sacrilège.
Plutôt que de laisser Amazon bâtir son siège social sur notre terre sacrée, pourquoi la ville du Cap n'en ferait pas un site historique protégé et maintenu en bon état? Un endroit où tous les Sud-Africains pourraient se rendre et dire « c'est ici que tout a commencé, c'est le site du péché originel ». C'est à partir d'ici que l'on doit résoudre la question des réparations, la question des terres, mais ce que veut en faire la ville aujourd'hui, c'est inhumain.
Des aménagements seront consacrés à la mémoire des premiers habitants. Il n'empêche, l'obstination du promoteur à développer son projet sur ce terrain est un manque de respect, estime Camille Meyer, professeur à l'Université du Cap.
Je pense que ça met en exergue des tensions qui existent déjà, qui est quelle est la place accordée à certaines minorités ou à certains groupes sociaux par rapport à d'autres. Et là, on voit vraiment une confrontation entre l'impératif économique, parce qu'il y a quand même un impératif économique énorme en Afrique du Sud. Le taux de chômage des jeunes est catastrophique, mais le choix du site est problématique parce que c'est un site sacré et d'une grande résonance identitaire et culturelle pour les peuples Khoisan. Et ça, je pense que c'est dramatique.
Ni Amazon, ni le promoteur n'ont souhaité répondre à nos demandes d'interview. La mairie renvoie à son communiqué qui met en avant la création de 5000 emplois pour la seule phase de construction. De retour du Cap, Romain Chanson, RFI.
Alors Amélie Mouget, je sais que vous aimez beaucoup parler d'Amazon dans la revue Dessinée. Et c'est un sujet avec toutes les questions socio-environnementales et économiques que soulève ce mastodonte du commerce mondial qui représente bien, je trouve, l'esprit de la revue Dessinée. Vous êtes d'accord ?
Alors oui, on s'acharne pas du tout sur Amazon. On a publié un sujet au moment du premier confinement sur les mesures sanitaires qui étaient prises ou pas dans les entrepôts Amazon et sur l'exposition des salariés. Mais c'est vrai que c'est un sujet inépuisable parce que multifacette avec le volet environnemental, le volet social qui là nous intéressait. Nous, à l'échelle européenne, on est allé voir ce qui se passait dans les entrepôts italiens, les entrepôts français. Et puis voilà, il y a le côté rouleau compresseur qui, de par sa puissance économique, peut, et de par les emplois qu'il promet, et de par l'activité qu'il promet, peut imposer ses volontés à des territoires, à des populations. On a une petite obsession pour les projets imposés et les histoires de rouleaux compresseurs. On s'est intéressé à Europa City à un moment, qui était un projet en Ile-de-France de parc de loisirs, mais beaucoup plus que ça, enfin de supermarchés démesurés, avec vraiment un vrai village créé de nulle part, enfin sorti de nulle part. Et plus récemment, on s'est intéressé au projet, alors qui n'a pas grand-chose à voir dans sa nature, mais dont le mode d'imposition à une population plutôt réticente est le même, qui est le projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure, dans la Meuse. Et là, c'est un territoire où il y a peu de monde, une population plutôt vieillissante, plutôt dispersée. Et on s'intéresse aux mécanismes qui permettent en fait de fabriquer l'acceptabilité d'un projet dont pas grand monde ne veut à l'origine. Et en ça, ça résonne avec l'implantation d'Amazon en Afrique du Sud.
Et ce reportage qu'on vient d'entendre, il fait aussi écho, je trouve, à un autre reportage qu'on peut lire justement dans le numéro d'été 2021 du trimestriel. C'est celui de la restitution des objets africains qui peuplent ici nos musées et nos galeries privées. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot ?
Oui, alors c'est un reportage, donc comme tous les reportages de la revue dessinée réalisés en binôme, une journaliste et un dessinateur, donc Hélène Ferrarini et Damien Cuvillier, qui se sont intéressés à la question épineuse des restitutions, de ce qu'on a appelé les arts premiers, les arts primitifs. Enfin, ça a changé de nom au gré de la mauvaise conscience qui s'installait face à la présence de ces objets qui n'ont pas été pensés à l'origine comme des objets d'art, mais qui peuplent les musées européens. Et se pose évidemment la question de leur place est-elle ici ? Leur place n'est-elle pas plutôt dans les pays dont ils sont originaires ? Et on s'est intéressé aux militants panafricains qui ont volé une statue au Quai Branly et qui se sont retrouvés devant la chambre, devant le tribunal correctionnel pour cette infraction et qui ont été jugés avec un procès très politique finalement. Pour eux, ce n'était pas du vol, c'était une reprise et puis une restitution d'un objet à son pays, à sa culture.
Et un geste militant également.
Tout à fait.
Alors, le reportage, il s'ouvre sur trois planches où l'on voit l'un des quatre Français de la mission d'exploration coloniale qui s'appelle Chari Lakchad, donc sur son cheval, hein, qui échange son pagne contre cette fameuse statue dont vous venez de parler, statue qui appartient à un paysan qui lui explique que cette statue représente la figure de sa femme qui est décédée. On est entre 1902 et 1904, l'explorateur n'a pas l'air très ému de savoir qu'il s'agit de la statue d'une femme et échange tout de même contre un pagne. Et cette scène, évidemment, on en a eu des traces écrites, bien sûr, mais pas d'images, pas de son. Et c'est là qu'on voit l'avantage de la bande dessinée, parce qu'évidemment, quand on construit un reportage, en télévision, on a besoin de s'appuyer sur des images, en radio, on doit s'appuyer sur des sons, et en BD, on peut tout imaginer.
On a quartier libre, ou presque, parce que c'est quand même le fruit d'un énorme travail documentaire de la part de la journaliste, qui laisse finalement peu de place à l'invention, mais suffisamment de place à l'imagination du dessinateur pour pouvoir reconstituer ce moment, cet échange. On ne soupçonne pas le sourcil de ce paysan de ressembler exactement à celui qu'on a dessiné, et là n'est pas le propos, là n'est pas l'enjeu. On essaye d'être dans une vraisemblance la plus forte possible, et ça nous permet en effet de faire revivre des moments pour lesquels on n'a pas de traces de vidéos, de sons, de traces enregistrées. Et ça nous permet aussi de changer d'époque assez facilement, de basculer dans un dessin parfois plus symbolique, plus métaphorique. Ça nous permet d'avoir de l'humour aussi. Avec, là, il y a tout un passage un peu cartoon où Jacques Chirac
est en maillot de bain à côté de Bernadette en train de bronzer quand il est approché par celui qui deviendra le cofondateur du musée du Quai Branly.
Oui, et ça permet justement de se balader dans une histoire un peu complexe quand même, cette question des restitutions, il est question du code du patrimoine, il est question de relations diplomatiques entre les États, et en même temps d'avoir des changements de rythme, des touches d'humour, donc on garde quand même le plaisir de la bande dessinée, de ce qui fait une lecture ludique, une lecture plaisante, une lecture absorbante, qui nous happe, tout en ayant une densité d'informations assez importante. Et à la fin, on va boucler sur le procès au tribunal correctionnel et ce qu'il est arrivé à ces militants.
Et où est-ce que vous posez vos limites alors au niveau du dessin ? Que vous vous interdisez de dessiner ? Ou est-ce que parfois vous dites on peut pas aller si loin ? Ça va peut-être prêter à confusion au niveau du lecteur, on va peut-être le troubler ?
Oui, alors nos limites, c'est le droit de la presse. On se méfie de tout ce qui peut être diffamatoire. On fait relire certains passages par des avocats quand il y a besoin. C'est l'éthique et la déontologie journalistique aussi. Tout ce qu'on écrit est vrai, vérifié plusieurs fois. Alors il peut y avoir une coquille de temps en temps, mais c'est vraiment marginal. Et pour ce qui est de la narration BD, de la mise en récit, là on s'autorise plus de liberté, mais il faut que ce soit hyper clair pour le lecteur. C'est-à-dire que si c'est inventé, ça se voit tout de suite que c'est inventé. Donc on peut aller dans la fiction, on peut faire des choses un peu fantaisistes, mais il faut que ce soit immédiatement compréhensible.
On peut voir. Il y a des gens qui sont partout.
Je ne sais pas quoi faire.
éteindre le feu, s'occuper, sauver leur famille, sauver leur vie.
Bien combattu le feu pour protéger au moins les maisons. Voilà. Au moins les maisons. Voilà. On a évacué les vieux.
Une semaine d'actualité. Avec Amélie Mouget, rédactrice en chef de la revue Dessinée. Et on poursuit notre exploration de l'actualité internationale de la semaine avec l'incontournable rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il a été dévoilé lundi. Notre journaliste Agnès Rougier nous résume son contenu.
Ce rapport montre sans équivoque que les activités humaines sont responsables du réchauffement du climat. Les experts du GIEC ont déroulé 5 scénarios en fonction de la quantité de gaz à effet de serre émis. Le scénario le plus optimiste, qui impliquerait une diminution rapide des émissions de gaz à effet de serre, amènera à une augmentation de 1,5 degré à la fin du siècle, et le pire scénario à au moins 4 degrés supplémentaires. Le changement climatique affecte toutes les régions du globe, en premier lieu les pôles et les continents qui se réchauffent plus vite que les océans. Les zones intertropicales pourraient subir 2 fois plus de jours de chaleur extrême que le reste du monde, avec un accroissement des cyclones tropicaux. Les événements extrêmes, les sécheresses, les vagues de chaleur, mais aussi les pluies torrentielles qui affectent déjà le pourtour de la Méditerranée et l'Afrique du Nord et du Sud, vont continuer à augmenter en fréquence et en quantité, avec des conséquences importantes sur l'agriculture. Dans les zones d'Afrique intertropicale, les projections du GIEC ne montrent pas d'accentuation de la sécheresse avec l'augmentation de la température. Dans les villes, en revanche, les vagues de chaleur seront plus fréquentes et plus intenses. En bord de mer, ces vagues de chaleur se conjugueront avec un accroissement de tempêtes encore plus violentes. Pour limiter le réchauffement et ses conséquences, la seule solution est donc de diminuer rapidement les émissions de gaz à effet de serre, car les puits de carbone, les forêts et les océans ne pourront pas absorber le CO2 supplémentaire émis.
Et des événements climatiques extrêmes, on peut dire qu'on n'en manque pas depuis le début de l'été, avec des incendies qui consument encore la Grèce, les États-Unis et la Russie, où les cendres des flammes qui dévorent la Sibérie ont atteint en début de semaine le pôle Nord. Depuis lundi, l'Algérie est touchée à son tour, et en particulier la Kabylie. Plus de 70 départs de feu ont été enregistrés par les autorités, comme nous l'expliquait Victor Moria.
Les feux se sont déclarés dans les montagnes qui entourent le chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou en Kabylie. Pour Camira, une habitante de la région, ces feux d'une violence extrême vont avoir des conséquences sur tout l'environnement et l'économie locale.
Les gens, ils ont perdu les animaux parce que c'est des éleveurs, les gens qui habitent les hautes montagnes. Il y a des animaux sauvages aussi qui sont morts. Et on ne parle pas de combien d'hectares d'arbres fruitiers ou d'arbres sauvages ou de plantes médicinales ou de plantes des fois rares qui se trouvent dans les montagnes qui ont disparu. En plus des pertes humaines et bien sûr des maisons, des biens, des gens.
Les départs de feu ont surpris les autorités qui ne possèdent pas de canadairs. La protection civile, les pompiers algériens manquent de moyens pour s'opposer aux nombreux départs de feu. Pour Youssef Aouchiche, président de l'Assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou, ces incendies sont trop nombreux pour être naturels.
Nous avons enregistré plus de 70 départs de feu dans l'espace de temps vraiment très réduit. Donc c'est pour ça que nous avons demandé aux autorités centrales d'ouvrir une enquête sérieuse et rapide pour déterminer les origines et les causes de ces incendies. On n'écarte pas des pistes criminelles.
Youssef Aouchiche nous a confié que plusieurs personnes avaient été interpellées dans la journée sur soupçon de pyromanie dans la wilaya.
Et ces forêts qui partent en fumée, en plus d'être un désastre pour la biodiversité locale, ne vont bien sûr rien arranger à nos émissions de gaz à effet de serre, puisque les arbres, vous le savez, en sont en quelque sorte des éponges. Arnaud Goffier, responsable de programme au WWF, nous rappelle l'importance de les protéger.
Climat et biodiversité sont incontestablement liés. Les forêts, c'est le bon exemple, puisque les forêts stockent du carbone, mais elles souffrent aussi du changement climatique. Petite anecdote, là, mais sur la côte ouest des États-Unis et du Canada, on a vu partir en fumée cette année des forêts qui avaient été plantées pour faire de la compensation carbone pour des grandes entreprises. Donc c'est assez ironique, mais ça montre les limites en fait de l'exercice de faire de la compensation carbone et de tout miser sur les puits de carbone. Et puis d'autre part, il faut aussi garder des forêts qui puissent stocker un maximum de carbone, et une forêt qui stocke du carbone, c'est une forêt mature, qu'on ne coupe pas à outrance, qu'on n'exploite pas à outrance, et qu'on ne fait pas tourner tous les 30 ou 40 ans, comme c'est le cas pour les forêts de production, les forêts industrielles, qui sont utilisées pour faire du papier ou du bois de construction.
Arnaud Goffier au micro d'Agnès Rougier. Amélie Mouget, ces problématiques écologiques, et en particulier la forêt, c'est une de vos grandes préoccupations à la Revue Dessinée.
Alors oui, on avait consacré un numéro au printemps dernier, un article, un sujet dans un numéro à cette question de l'industrialisation de nos forêts. En fait, la question qu'on se posait, c'est nos forêts sont-elles devenues des monocultures comme les autres ? Et ça résonne complètement avec ce que disait le responsable de WWF, c'est-à-dire des forêts qui poussent très vite, qui sont constituées uniquement de sapins, de douglas, et qu'on coupe très tôt, à 30 ans, 40 ans, et qui sont tout à fait homogènes, c'est-à-dire que si une maladie se développe, elle va toucher toute la forêt. Si un incendie se propage, il va consumer toute la plantation. Parce qu'on ne peut plus vraiment parler de forêt à partir du moment où on a ces plantations en monoculture. Aux yeux de certains militants ou certains défenseurs de l'environnement, une forêt, c'est une diversité d'essence, une diversité d'arbres. Et donc, on a décidé de raconter un peu cette à l'échelle de la France. Mais ça résonne avec ce qui se passe au Brésil, ça résonne avec ce qui se passe dans la plupart des forêts du monde. Cette uniformisation, cette malforestation. Il y a énormément de forêts qui changent sans qu'on s'en rende compte et qui perdent toute leur qualité, notamment de puits de carbone et puis de réservoirs de biodiversité. Et c'est un regard peut-être plus dans le détail qu'on portait sur nos forêts en lançant un peu le signal d'alerte sur les forêts du Morvan et d'autres. Et une forêt à dessiner, c'est magnifique.
Et j'invite aussi tous les auditeurs à écouter l'émission Accent d'Europe sur la préservation de la forêt qui a été rediffusée ce jeudi sur RFI pour avoir un complément d'information.
7 jours dans le monde.
On part à présent au Canada, où le gouvernement tente de réparer ses erreurs vis-à-vis des communautés autochtones. Une aide de 220 millions d'euros a été annoncée mardi pour retrouver les tombes des victimes des pensionnats et pour soutenir les survivants traumatisés encore aujourd'hui par la violence de cette vaste politique d'acculturation. Les précisions de notre correspondante sur place, Pascale Guérigola.
Les sommes annoncées par le gouvernement canadien vont notamment financer les recherches pour trouver les tombes où se trouveraient des milliers d'élèves décédés dans les pensionnats religieux tout au long du XXe siècle. Les survivants de ces pensionnats vont aussi avoir accès à de l'aide psychologique. Rose Ann Archibald, qui dirige l'Assemblée des Premières Nations au Canada, constate que les gouvernements et les églises ont commis un véritable génocide envers les Autochtones.
C'est une étape attendue depuis longtemps pour enfin reconnaître l'impact dévastateur qu'ont eu et qu'ont encore aujourd'hui ces institutions sur tant de générations dans nos communautés. Il est temps de rendre des comptes, d'agir et d'entreprendre la guérison.
Le ministre de la Justice nomme également un interlocuteur spécial chargé de mieux comprendre les besoins juridiques des communautés autochtones. David Lametti.
Ça va aussi identifier les lacunes juridiques. Si on peut améliorer le système, si on doit changer les lois, soit le code criminel, soit la loi sur les crimes contre l'humanité, c'est une personne qui va nous aider à l'identifier.
Un des chefs de l'opposition du nouveau Parti démocratique aurait préféré, lui, une enquête juridique pour identifier les responsables des décès des jeunes autochtones. Pascale Guérigola, Québec. RFI.
Cette enveloppe de 220 millions d'euros qui arrive donc 25 ans après la fermeture du dernier pensionnat de ce genre au Canada, c'était en 1996. Amélie Mouget, vous trouvez que c'est trop tard ou on peut dire mieux vaut tard que jamais ?
Alors, je ne pourrais pas me prononcer sur ni le moment auquel ça arrive, ni le montant accordé. J'ai l'impression que les personnes les plus à même de juger si c'est pertinent et si c'est à la hauteur de la souffrance subie et de la violence de ce phénomène d'acculturation sont les principaux concernés. Là où cette histoire résonne fort avec des choses qui ont pu être... traité en BD reportage, c'est tout le travail qu'a mené Joe Sacco. Il a consacré un album qui s'appelle Payer la Terre à cette question.
L'édition Futuropolis, oui, qui est sortie l'année dernière mémoire.
Oui. Et tout cet arrachement des enfants à leur famille et la violence dans les pensionnats est raconté par les gens qui l'ont vécu, qui sont des adultes maintenant, de manière hyper à la fois sans filtre et sensible et touchante. Et le dessin est formidable pour raconter avec pudeur ces événements-là. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que la réparation est nécessaire et urgente, oui, bien sûr.
Il y a un documentaire que je trouve très complémentaire justement sur ce sujet qui est disponible jusqu'au 27 décembre 2021 sur la plateforme Arte. www.tv qui s'appelle « Tuer l'Indien dans le cœur de l'enfant » réalisé par Gwenlawen Le Guy. C'est en fait une enquête sur l'origine des traumatismes qui hantent encore aujourd'hui les communautés autochtones au Canada, avec un focus notamment sur les violences sexuelles et les féminicides que subissent les femmes autochtones. On apprend par exemple qu'elles ont 7 fois plus de risques de disparaître ou d'être assassinées que les femmes blanches.
Une semaine d'actualité.
En Pologne, les députés conservateurs ont souhaité mercredi protéger les médias polonais des influences étrangères en interdisant à une entreprise basée en dehors de l'espace économique européen de détenir plus de 49% d'une chaîne polonaise. Mais pour l'opposition, c'est une attaque ciblée contre TVN, la principale chaîne de télé privée du pays, détenue par l'américain Discovery, une chaîne qui a la particularité d'être justement très critique à l'égard du pouvoir. Qu'est-ce que vous en pensez, Amélie Mouget ? Qu'est-ce que ça dit sur l'indépendance des médias ?
Ça dit la nécessité d'une pluralité de propriétaires de médias, j'ai l'impression, et qui est la condition nécessaire à une pluralité de voix, de tons, d'approches et de regards critiques aussi. L'indépendance, vu de ma fenêtre, l'indépendance des médias, c'est absolument nécessaire, crucial. Enfin, c'est vraiment un des lieux de vitalité démocratique et je suis hyper heureuse de travailler au sein d'un trimestriel qui appartient à ceux qui le font. Et puis,
oui, comment ça se passe d'ailleurs à la revue dessinée comment vous vous financez ?
Alors, sans publicité, et ça c'est...
Très agréable à la lecture.
Ouais, en plus de nous libérer de pression éventuelle d'annonceurs, ou en tout cas, on n'a pas ce souci de contrarier ou non nos annonceurs, nous n'en avons pas. Et la contrepartie de ça, c'est qu'on dépend entièrement du lectorat, donc des abonnés et des personnes qui achètent en librairie la revue.
Jours en France.
On termine notre tour du monde de l'actualité ici en France, où le père Olivier Maire, prêtre à Saint-Laurent-sur-Sèvre en Vendée, c'est dans l'ouest de la France, a été assassiné lundi matin, une figure locale très appréciée des riverains. Le responsable présumé du drame s'était rendu dans la foulée à la gendarmerie pour avouer son meurtre. L'homme avait déjà été accusé d'avoir mis le feu en 2020 à la cathédrale de Nantes où il était bénévole. Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire sans mobile terroriste retenu. Les forces de l'ordre ont toutefois souligné que son état n'était pas compatible avec la garde à vue. Il sortait d'une hospitalisation en milieu psychiatrique et a été interné d'office lundi soir. L'actualité en France a aussi été marquée par un durcissement des restrictions sanitaires en Martinique et en Guadeloupe, frappées de plein fouet par la quatrième vague de l'épidémie de Covid. Pour faire face à cette situation alarmante, le ministère des Solidarités et de la Santé a affrété mardi 2 avions pour une mission exceptionnelle afin de renforcer les équipes de soins sur place. Notre journaliste Sylvie Coffi a tendu son micro à Sabine Lardin, cadre supérieur de santé au CHRU de Nancy, juste avant qu'elle ne monte dans l'avion.
Nous venons de Nancy, la Lorraine. On est 20 agents du CHRU de Nancy à partir, en sachant qu'on part 2/3 sur la Martinique et 1/3 sur la Guadeloupe. Toutes les catégories sont représentées. Nous avons des aides-soignants, des infirmiers, des infirmiers anesthésistes, des élèves infirmiers anesthésistes, des cadres de santé, des médecins et des manipulateurs radio. Voilà.
Alors pourquoi vous avez répondu aussi nombreux à cet appel ?
Parce qu'on a connu cette urgence lors de la première vague dans le Grand Est et qu'on a eu beaucoup de renforts aussi humains et matériels et que on pense que rendre l'appareil, c'est tout à fait, ça fait partie de nos valeurs soignantes.
Est-ce que vous savez ce qui vous attend sur place ?
Absolument pas. On sait que c'est l'équivalent de ce qu'on a pu connaître, nous, dans le Grand Est, la première vague. Mais voilà, on ne sait pas, mais on y va parce qu'on veut mettre à profit et pouvoir aider nos collègues.
Cette mobilisation des soignants, Amélie Mouget, vous en parlerez justement, je crois, dans le prochain numéro de la revue dessinée. Vous pourriez nous en dire quelques mots ?
Alors oui, dans le prochain numéro, on raconte en une grosse dizaine de planches une action, une petite opération commando qui a eu lieu le 14 juillet 2020. Et c'était une mobilisation des soignants pour réclamer plus de moyens pour l'hôpital public. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais a flotté une grande banderole au-dessus de la place de la Concorde. pour dire que derrière les hommages, l'hôpital public souffrait. Et on raconte un peu le making-of de cette action et de cette mobilisation. Et c'est absolument rocambolesque et prenant. Et derrière ça, on aborde la situation de l'hôpital, la situation des équipes soignantes. L'idée, c'est de regarder aussi non seulement les médecins, mais aussi les aides-soignants, les infirmiers, toutes les personnes qui sont évoquées dans le reportage, et de voir si entre le début de la pandémie et aujourd'hui, leurs conditions de travail ont changé ou non. On se pose ces questions-là à travers une histoire plutôt drôle, avec 86 ballons gonflés à l'hélium et un plan finement mené. Donc oui, c'est à retrouver en septembre prochain.
Et ici en métropole, Amélie Mouget, vous avez sûrement dû présenter comme moi votre passe sanitaire si vous avez voulu entrer dans un restaurant ou un café, puisqu'il est obligatoire en France depuis lundi. Mais il est loin de faire l'unanimité, alors certains Français n'ont pas hésité cette semaine à traverser la frontière franco-belge pour aller déjeuner tranquillement.
Dans ce centre commercial, on entend l'accent français plus que d'habitude. Laurence est venue de Valenciennes pour faire les magasins, 30 minutes de voiture. Elle refuse vaccin et test PCR. Qu'est-ce que c'est votre sentiment ici quand vous arrivez en Belgique ?
C'est beaucoup mieux, il n'y a pas le pass sanitaire, donc on est plus tranquille, on ne nous impose pas.
Et vous êtes prêt à tenir combien de temps comme ça ?
Le temps qu'on pourra.
Thomas Cornil, le directeur de ce centre commercial, note une fréquentation à la hausse, surtout depuis un mois.
En 2019, nous avions en moyenne 11% de clients français et aujourd'hui, sur les mois de juin et de juillet cumulés, on est à 15%. Le samedi, ça peut monter à 23, 24, voire 25%.
Activité favorite des Français, les restaurants. Léna, serveuse dans une brasserie, n'en a jamais vu autant.
À partir du moment où le pass sanitaire il a été obligatoire, on a eu beaucoup de Français, mais les trois quarts du restaurant, c'était des Français.
Sans pouvoir avancer de chiffres précis pour l'instant, la ville de Mons confirme que les Français sont plus nombreux depuis l'instauration du pass sanitaire. Jérémy Audouard, Mons RFI.
Este es un homenaje para Lionel Messi. El pie de oro llegó.
On va boucler ce tour du monde d'un ballon au pied avec une nouvelle qui a réjoui les supporters du Paris Saint-Germain. La star du football Lionel Messi a quitté en larmes dimanche le Barça où il avait joué pendant plus de 20 ans. Il a annoncé qu'il rejoignait le club parisien. Alors il faut dire, chers auditeurs, que le bureau d'une semaine d'actualité est coincé entre le service des sports de RFI et celui de l'émission Radio Foot International. Donc nous avons pu suivre de très près les va-et-vient de nos journalistes à mesure que tombait crescendo les infos et les scoops sur le transfert de Messi. Messi quitte le Barça, Messi va signer ailleurs, Messi pourquoi pas au PSG, le PSG négocie avec Messi, Messi et le PSG trouvent un accord, Messi est à l'aéroport, bref, un feuilleton saisi sur le vif par notre journaliste Martin Guèze.
On se pince pour le croire, mais Lionel Messi, avec le maillot du PSG, c'est pour de vrai. Une arrivée réglée comme du papier à musique, millimétrée, chronométré, 15h29, hors française, Messi pose le pied à Paris, il apparaît sourire aux lèvres et t-shirt ici c'est Paris sur le dos. 15h40, le PSG publie un clip vidéo sur son compte Twitter qui ne laisse guère de doute, un diamant arrive à Paris, peut-on lire, un diamant nommé Messi. 16h26, Messire Messi arrive à l'hôpital américain dans l'ouest de Paris pour y passer sa visite médicale. 17h40, direction la Factory, le siège du PSG, pour y signer un contrat de 2 ans. Des centaines de pages à paraffer. C'est tout pour ce mardi, pour Sa Majesté, mais le multicouronné revient mercredi. 11h, heure française, 9h, temps universel, conférence de presse, de présentation au Parc des Princes, pour marquer le début de son règne parisien.
Je vous vois sourire, Amélie Mouget. Ça ne vous fait pas plaisir, ce transfert de Messi au PSG ?
Je suis le foot de beaucoup, beaucoup trop loin. Mais non, c'est intéressant de voir à la fois cet enthousiasme et puis ce suivi au millimètre près, à la seconde près des rebondissements. Et en même temps, ça me fait penser à la réaction que j'ai pu lire de la gardienne de l'équipe de France de handball qui s'était un peu fait voler la vedette, ou en tout cas qui, dans la médaille d'or aux Jeux Olympiques, a été un peu éclipsée par ce transfert très médiatisé et retentissant. Ça résonne aussi avec un sujet qu'on avait fait dans la revue dessinée sur les femmes et le foot. Et il y a toujours cette impression de « Ah, n'y a-t-il pas une femme qui est éclipsée par un homme dans cette histoire, ou des femmes en équipe qui, en l'occurrence, sont éclipsées. » Voilà, je dis ça en tant que personne assez peu passionnée de football, donc je mesure bien ce que ça peut avoir de choquant et à quel point le transfert de Messi est scoopesque. Mais voilà, on s'était intéressé à ça, aux équipes féminines, et on avait fait tout l'historique depuis en gros 1917 pour raconter à quel point quand les femmes faisaient du sport, c'était jamais vraiment sérieux, et à quel point c'est difficile pour elles d'avoir la une, et même à un moment, je crois, dans les années 70, c'était considéré comme un show burlesque, les matchs
du divertissement
complètement, au même titre que des performances de cirque. C'était vraiment dans le même genre d'événement, et puis j'ai toujours un peu cette petite musique en tête de qui attire le plus la lumière dans ces cas-là. Voilà.
Merci Amélie Mouget d'avoir été notre invitée. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef de la revue dessinée Le Trimestriel qui raconte l'information en BD. Le numéro d'automne sortira d'ailleurs
Le 10 septembre prochain.
Le 10 septembre prochain. Donc à retrouver en librairie et sur votre site internet pour le commander. C'est larevuedessinée.fr. Merci aussi à toute la rédaction de RFI et ses correspondants pour les papiers et les reportages éclairants que nous avons pu entendre. Et merci enfin à la lumineuse Sophie Janin qui a réalisé cette émission pour le plus grand plaisir de nos oreilles. Pour réécouter une semaine d'actualité, rendez-vous sur le site internet de RFI et sur vos plateformes de téléchargement préférées. Restez à l'écoute de la Radio du Monde, un nouveau journal dans quelques instants, juste après Angélique Kidjo et son ode à la nature, c'est Mother Nature sur RFI. Don't ever let them hurt you in any way. Or never let them steal and take the best of you. Keep building cities from the ground. We rise and wield the waves.
It's Kelpie Vibes.
Don't ever let them hurt you in any way. Take the best of you. Keep building cities from the ground. We rise and we away. Mother Nature has a way of warning us. A time bomb set on a lost countdown. Do you hear it? Will you stop it? Won't you listen? Ame si ame ne va mi ale benetike ame. Ame si ame ke le konja ero la nusilo. Each one of us.
Sur RFI.